The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 274 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve.
Bonjour, bonsoir.
Francis.
Bonjour, bonsoir.
Et en invité spécial, on a Loïc. Salut Loïc.
Salut, salut.
Yes, aujourd'hui, dans nos shameless plugs, bon, c'est pas mal tranquille, c'est l'été. Venez nous parler sur discord.qfest.ca, puis il y a plein de belles activités, de conférences en septembre et octobre que vous pouvez réécouter dans les autres podcasts ou dans les prochains, on fera la liste encore une fois. Mais commençons avec deux, trois petites nouvelles. Après ça, on va parler d'un projet, le fun que Loïc a fait. Et évidemment, si tu veux commenter sur quoi que ce soit, gêne-toi pas.
Super.
Mais rapidement comme ça, je pense ton nickname, juste sur Discord, pour savoir qui tu es.
Loïc, ouais. Tout simplement.
Ah, facile. Voilà. Donc, vous pourrez aller discuter avec lui dans le channel de la French Connection, si ça vous intéresse de parler de son projet. Je pense que tu l'avais déjà posté dans un autre channel, là, mais ouais.
Exactement.
Yes. Ouais, petit sujet le fun. Évidemment, on en a parlé beaucoup avec Jacques. Mais la RBC, encore une fois, qui remet la sécurité dans les mains de ses clients. Une autre fraude, là, une madame qui s'est faite frauder pour 14 000 $ et plus parce qu'au téléphone, elle s'est fait dire de transférer de l'argent. Fait qu'on a les deux côtés de la médaille du fait que la responsabilité de tout le monde devrait... Si tu donnes ton mot de passe ou tu fais des transferts à des criminels, c'est de ta faute. Mais en même temps, c'est évidemment, je pense que c'est un peu là que tu voulais aller, Francis, mais si le système de la banque n'est pas bon, il n'est pas bon. Hein, s'il n'est pas anti les fraudes, etc. Là. Ouais, Steve?
Ben, j'en faisais une chronique hier avec sur une radio à Montréal. Et on parlait justement qu'il y a une fausse vidéo, désinformation là, qui était diffusée à grande échelle et ça recommandait de ne plus prendre des médications. Ça parlait dans cette vidéo-là contre la diabète. Puis là, ils mettaient Mme Lamarre, là, qui était la fameuse pharmacienne là, qu'on l'a vu durant la COVID, là, qui promulguait tout ça. Tout ça était artificiel au complet. Même Anne-Marie Dussault l'introduisait dans son entrevue. Puis ça relate, puis pourquoi je fais le parallèle entre les deux scénarios, c'est... De moins en moins, les gens font cette vérification, la contre-vérification de la source, puis ils prennent pour acquis l'information qui arrive, qui transpire de peu importe le média social, comme étant la vérité.
Tout est vrai parce que c'est écrit sur un écran. C'est plate à
ouais,
dire.
Mais... Là, je fais le lien pas avec le téléphone, justement, parce que c'est écrit sur l'afficheur. Ah, c'est marqué que c'est de l'institution financière. Ça doit être vrai. Mais non, on est dans une ère... que tout est falsifiable électroniquement parlant. Fait que c'est pour ça que j'arrête pas de dire de ces temps-ci, arrêtez de vous fier à qu'est-ce qu'on vous présente. Puis dans le cas de la fraude téléphonique, ben rappelez l'institution.
Rappelez pas le numéro qui vient de vous appeler, là. Rappelez le vrai numéro.
Rien de la carte client, le numéro, il est là.
Tu sais, les fraudes qu'il y a eu, là, je pense que c'était un comédien, j'ai oublié son nom, là. Ben, j'ai rappelé le numéro. Ouais, mais... Ouais. Comment
dude? C'est pas Peter McLeod?
Oui, oui. Ouais. Mais il a eu la bonne réaction, mais il a pris le numéro du fraudeur pour le rappeler. Il était bien content de se faire rappeler.
Ben c'est ça, c'est une demi-mesure qu'il a pris. Ben, c'est juste que faut reprendre ça à partir de zéro. Il y a une intention qui est soumise, parfait. Rappelons ça au vrai numéro. Parce que on peut plus dire à cette heure, allez voir dans le bottin, le numéro est publié là. Non, non. Il faut aller vers d'autres
moyens.
Sur
le vrai site web, puis etc.
Le site web est encore, moi je dis, une autre affaire qui est corruptible. Donc, aller en arrière de la carte client,
ouais, tout à
il,
fait.
Y a il y a des numéros de téléphone là-dessus.
Puis, by the way,
normalement, la carte que vous avez dans vos poches, le numéro devrait être bon, oui, c'est la carte que vous avez 100%. Dans vos poches. Là, t'sais. On part de ce principe-là, mais t'sais, ça reste, là je vais taper sur le clou, dans un clou que je tape tout le temps, il va finir par rentrer. On n'a pas développé ça au Québec, le minding de sécurité. On vit dans un monde de licornes.
Mais c'est trust,
moi, je peux
but
vous
verify.
Si les licornes, ça existerait, j'en arrête déjà manger sur mon barbecue des licornes.
Ouais, je sais, mais...
Hein? Parce que moi, vous savez, je le dis toujours, hein, le respect des animaux, ça commence par une très bonne marinade, OK? Donc là le principe, là, on part de ça. Là. Puis, tu sais, on arrive... Ah, j'ai M. Logan qui arrive, il va vouloir jaser. Mais ça reste que... Quand, par exemple, vous faites venir un réparateur de lave-vaisselle, on va vous le dire au téléphone, monsieur, notre technicien, il va venir dans la journée. Déjà là, tu perds ta journée. Mais on va te dire, le numéro du bon de travail, c'est 22 44 28 46, machin truc. Combien de personnes? Et là, là, va checker la caméra, là, je m'inclus là-dedans. Là. Combien de personnes demandent au réparateur Maytag qui arrive chez vous? Ah, bonjour, j'aimerais connaître le, votre numéro de bon de travail. On fait jamais ça. On fait jamais ça. On n'a pas développé cette culture-là de sécurité. Hey, t'arrives, t'as un polo de Maytag. Asti, t'es un gars de Maytag.
Ouais,
c'est pas ramassé ça d'un tournoi de golf, c'est sûr et certain. Non, voyons donc.
Flash de valeur.
Maytag, faut pas de tournoi de golf.
Flash de valeur.
Mais, non, mais dans les dépenses de linge usagé, souvent, il y a des uniformes comme ça qui se retrouvent
ben oui,
là-dedans.
C'est le truc numéro un. Mais
moi, ben oui, définitivement.
J'ai eu Statistique Canada qui s'est pointé chez nous. J'ai été l'heureux élu de me faire choisir par ce sondage inutile mais ridicule-là. Alors, on fera un épisode complet là-dessus ou en tout cas une section à un moment donné. Mais le gars, il se présente à la porte. Il dit, Statistique Canada, je veux que tu répondes à mes questions. Je dis, t'es qui, toi? Je te parle pas. Il dit, prouve-moi que t'es Statistique Canada. Il me donne sa carte. C'est une carte en carton. Tout le monde peut faire ça. Je dis, va-t'en. Il dit, ben, on va vous appeler. Je dis, non, non, tu m'enverras un email. Je te parle pas.
Une carte en carton. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Moi, la municipalité, où est-ce que je recite, là, ils ont des permis d'itinérants, là, de vente d'itinérants, là. Christy, j'ai jamais vu c'est quoi un vrai permis de la ville d'itinérant. Puis quand la ville m'envoie mes communications, par exemple, ma facture pour mes taxes, pourquoi ils ne m'envoient pas un échantillon de quoi ça a l'air, une carte d'itinérant ou de vendeur itinérant ou une photo, quelque chose? Bon. Moi, ils arrivent ici. Il a pris le logo sur le site web de la ville, puis il a collé ça sur un petit carton. Il a fait deux trous avec un point ça où il s'est mis une petite corde. Puis on est en business, on est rendu un vendeur itinérant. Je suis qui pour vérifier ça? Puis quand le vendeur itinérant part, quand il passe, la ville est fermée, Christy. Ben, appelez quoi le 911 pour dire qu'il y a un gars qui se promène pas de permis d'itinérant? Ils arriveront pas, il va sacrer son camp. Tu sais, je veux dire, ça va être trop tard. Je peux pas appeler la ville. Fait que tu sais, c'est. On est dans un gros laxiste, tu sais, fait que quand on arrive au niveau technologique, ben là, ça suit pas. Puis si on vient à l'histoire de RBC, ben oui, puis je suis d'accord avec Jean qui est pas là ce soir, je veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, quand Jean qui a fait une montée de lait dans la dernière semaine pour dire là, à un moment donné, là, faut arrêter d'excuser l'inexcusable. Tu sais, des gens de 60 ans, là, ils ont connu le début des cartes de guichet, là, ils peuvent pas dire qu'ils comprennent rien à la technologie, là. Tu sais, je veux dire là, à un moment donné, là, tu sais, c'est pas nouveau, là. Par contre, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Là. On en parlait pas la première fois. Parce que quand on dit qu'il y a une personne sur deux au Québec qui est analphabète fonctionnel, de la misère à lire puis à écrire, ben, il faut comprendre que le monde, là, c'est pas tout Einstein. Puis il y a une responsabilité. Puis moi, vous le savez, je suis plus à droite. Hein. Moi, je suis plus pro-responsabilité individuelle. Mais là, je pense que peut-être que les banques... profitent du fait que.
Ben, c'est sûr qu'ils en profitent.
Ils savent que le système n'est pas bon. Là. Puis, tant qu'il n'y aura pas d'obligation de dire
ça, pas de loi,
on va mettre en place des mesures que oui, ça va écœurer le client. Mais si toutes les banques se font écœurer le client de la même manière, ben, le client va continuer d'aller à la banque pareil parce qu'il n'y a pas le choix.
Ouais, puis c'est pas comme si tu te connectes à ta banque 25 fois par jour. Là. Fait que non. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas sécuritaire. Prochain sujet rapide, Francis, Ecvision. Chez nous, un suivi là-dessus.
Oh, Ecvision, ben, vous savez, il y a quelques, quoi, deux semaines, une semaine et demie à peu près, Mélanie Joly a annoncé que Ecvision se faisait kicker out du Canada. J'ai fait une publication là-dessus. Bon, là, il y a plein de gens qui... Bon, là, c'est anti-chinois. Là, on tombe dans le racisme, on tombe dans le wokisme idéologique par rapport à ça. Là. Puis là, c'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. Là. Ouais, mais les Américains sont pas mieux. Oui, les Américains sont mieux. Est-ce qu'ils font de l'espionnage, les Américains? Oui. En général, ils sont de notre bord. Puis en général, ils torturent pas le monde pour avoir de l'information. Fait que, oui, il y a un risque avec les produits américains. Mais quand on fait de la gestion de risque, l'idée, c'est pas d'atteindre le risque zéro. C'est d'éliminer les risques les plus pesants, les risques qui sont le plus élevés par rapport à notre tolérance au risque. Et là, ben, il semble que selon les rapports du SCRS, là, souvent la question, c'est « Ouais, mais moi, je veux savoir exactement c'est quoi la faille de sécurité. » Je vais annoncer à tout le monde, là, c'est triste, là, mais la majorité des Canadiens n'ont pas le niveau de sécurité du SCRS. Fait que si on connaît des affaires super top secrètes de Ecvision, le SCRS ne va pas les rendre publiques pour que le monde aille gosser là-dedans. Okay? Donc, il faut apprendre à vivre avec nos services secrets qu'ils disent. Dans de nombreux rapports, hein, Steve ne partageait souvent des rapports du SCRS. Là. T'sais, d'après moi, Ecvision, il doit y avoir au moins 20 rapports qui parlent d'Ecvision. Fait que ces gens-là, ils travaillent, ces gens-là sont compétents, ils arrivent à la conclusion que c'est pas une bonne idée. Bon, parfait. Et là, ben, Hikvision s'est sorti ce matin dans le Journal de Québec, annonce qu'ils vont aller en appel de la décision d'Ottawa. Alors ça, c'est une stratégie qui est souvent utilisée en espionnage. On va utiliser les tribunaux du pays qu'on veut attaquer. Je dis pas encore là que c'est ce que Hikvision veut faire. Moi, je n'ai pas le niveau pour dire qu'Hikvision, c'est vraiment des vrais espions. Outre le fait que de dire que si la SRS dit que c'est mal, moi, je back le SRS. Je suis d'accord avec eux autres. Parce que c'est le SRS. Ben là, ça, c'est des stratégies qui sont connues. Probablement que Steve pourrait peut-être même en parler, là, mais c'est des stratégies qui sont connues là, d'utiliser les tribunaux, les lois du pays attaqué pour justement là, faire valoir nos droits là, puis étirer ça le plus possible. Là. Donc là, c'est là qu'on en est présentement. Et encore là, ça vient démontrer la souveraineté du pays. De dire, quand c'est rendu que tu peux pas bannir quelqu'un, tu peux pas bannir une compagnie sans que les tribunaux s'en mêlent, puis qu'ils pourraient même arriver à la conclusion que même si t'es un gouvernement élu démocratiquement, tu n'as pas le droit. Moi, ça me jette à terre.
Yes. À suivre. Passons tout de suite au petit sujet avec Loïc, puis on va finir avec quelques nouvelles assez intéressantes avec Steve. Mais parle-nous de ça. puis tu nous repartageras ta vidéo. On va mettre ça dans les show notes, etc.
Merci beaucoup.
Mais je trouvais ça super le fun que tu partages le tout en vidéo. Mais c'est ça. Juste pour au moins encourager une couple de personnes à se lancer là-dedans.
Ben, dans un premier temps, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Du coup, donc, en gros, j'ai vu en fait sur Marketplace qu'il y avait des Roomba, donc les petits robots aspirateurs qui se balayent. Dès que tu appuies sur un petit bouton, ça fait le tour de ta maison. C'est un petit peu bête. Donc, ce modèle-là est très bête. C'est un des premiers modèles. Et du coup, en gros, c'est ça, c'est juste appui. Il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Et en fait, l'ancien propriétaire le vendait juste pour $20 parce qu'en fait, il marchait pas très bien, etc. En tout cas, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ESP32, j'ai créé un petit serveur dessus, et en fait, la possibilité, en fait, les Roomba ont la possibilité, en fait, tu as la possibilité, en fait, de te brancher directement au port série, en fait, qui a intégré au Roomba. Donc, il y a un petit cache que tu dois juste enlever, et en fait, tu as la possibilité de te brancher directement sur la motherboard. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, j'ai donc, comme je le mentionnais, j'ai fait un serveur qui me permet, en fait, d'envoyer des commande OESP et donc en gros je peux lui faire jouer de la musique, je peux en gros le déplacer et en fait dans un futur ce que j'aimerais faire ça serait de faire un combat de robots donc en gros en gros super. Ouais c'est ça, c'est tu sais ça m'a coûté $20 je pense 25 avec le ESP et en gros du coup c'est ça serait vraiment de faire un petit combat de robots avec un ami, de les modifier et en fait de pouvoir s'amuser le temps de les briser, mais du coup en fait du coup, je voulais venir ici pour parler un petit peu avec une question ouverte. Qu'est-ce que vous pensez en fait des constructeurs qui créent des produits et en fait qui les brident, enfin un peu comme BMW qui avait fait, je pense de mémoire, avec les sièges où est-ce qu'il fallait payer pour avoir, je pense, le siège chauffant, si je dis pas de bêtises.
Et subscription pour les sièges.
Exactement, c'est ça. Et exactement. Et en fait, de base, on a la possibilité de pouvoir le commander avec son téléphone. Je sais que je regardais dans la documentation de l'application, c'était pas possible dans le temps de pouvoir, par exemple, en gros, contrôler son Roomba avec son téléphone ou autre. C'était t'appuies sur un bouton et il partait tout seul. Après, bon, c'est sûr, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité à contrôler son Roomba. Tu veux que ça soit autonome et peut-être que tu veux pas. Mais je trouve ça vraiment drôle parce qu'en gros, t'as la possibilité de pouvoir faire plein de choses parce que t'es branché directement sur la motherboard. Mais en fait, il bride manuellement, en fait, tous les appareils pour que justement tu puisses pas le faire. Et du coup, voilà, c'est juste pour parler un petit peu avec vous de qu'est-ce que vous pensez des constructeurs qui brident manuellement, en fait, toutes les technologies qu'ils font justement pour pas que le grand public l'utilise à 100%.
Et bien, il y a plusieurs points là-dedans. Tu as le concept de le droit de la réparation qui commence à être discuté au Canada, qui vient comme briser ça, hein, parce que si tu n'es pas capable de contrôler et faire ce que tu veux avec, c'est exact. Comme s'il ne t'appartient pas, mm-hmm. donc tu ne peux pas le réparer non plus. Ouais. Fait que ça, c'est un gros, gros, gros problème. Mais quand tu achètes quelque chose, tu devrais pouvoir le gérer comme tu veux. Mm-hmm. Ça t'appartient.
Ben pour même rebondir.
On est loin de ça.
C'est ouais. ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça vient de me popper dans la tête. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, peut-être que j'enverrai le lien dans le Discord, il y avait Spotify qui avait sorti un appareil que tu mettais dans ton char. Et en fait, ça te permettait d'avoir un espèce d'écran qui te permettait d'avoir un petit peu comme le display, en fait, pour pouvoir mettre la musique, etc. Et en fait, ils ont arrêté la production et en fait, ils ont fermé les serveurs de cette application-là. Et en gros, en fait, les gens qui l'avaient acheté, et en fait, c'était inutilisable. Donc, les gens avaient juste...
Tu as accès à la fonctionnalité.
Exactement. Et en fait, les gens avaient juste une brique en plastique qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Et du coup, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à vérifier qu'est-ce qu'on pouvait faire et du coup, qui ont implémenté du code, etc. pour pouvoir le réutiliser. Mais je trouve ça vraiment drôle que du jour au lendemain, un constructeur se dise « Bon, ben, cet appareil ne fonctionne pas ou ce produit ne fonctionne pas. Bon, ben, on arrête tout. » Et les gens qui ont déjà acheté le produit, ben, en fait, ils l'ont dans l'os. Là. C'est tu te dis « Bon, ben, OK. »
Ouais, ouais. On sent que le cloud, c'est mal. Ouais, ça... Dépend du cloud, puis si le cloud arrête, tout arrête exact. Chez vous. C'est
vraiment pas bon. C'est des études forcées volontairement par les entreprises. C'est ça qui est fou dans ça.
Il y a plusieurs affaires moi, qui m'interpellent dans ce que Loïc dit. Un, merci d'avoir utilisé le terme bridé. Je trouve ça très beau hein, parce qu'on jailbreak pas des patentes, on débride des choses. Okay? Fait que ça, là, j'adore ça. Et bien, on va faire un petit shameless plug. Il y a une formation d'une journée hein, à WACFES en introduction à la rétro-ingénierie des systèmes de sécurité physique. Mais c'est exactement ça qu'on fait. Hein. Trouver, y a-tu des ports cachés sur le device, puis comment je peux m'interconnecter. Fait que c'est ça qu'on fait pendant une journée de temps. Ici, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires vraiment cool à faire avec ça, d'être capable d'accéder à des fonctionnalités qu'on n'a pas accès normalement. Exact. C'est sûr que là, avec le droit à la réparation, ça vient changer beaucoup d'affaires. Je ne sais pas comment que ça va gérer au niveau des parts propriétaires et tout ça, parce que là, même, je pense qu'il y a une nouvelle étape qui rentre en fonction. J'ai le 27 juillet dans la tête. Ça vous dit quelque chose, vous autres? Il y a une nouvelle étape là dans il y a quelque chose qui rentre en vigueur fin juillet là justement sur le droit à la réparation là. Il y a une étape de plus là puis si je me trompe pas, s'ils t'offrent pas les pièces de recharge, ils t'offrent pas les instructions de réparation à l'achat du dispositif, faut que ce soit marqué dessus officiellement que ce dispositif là se répare pas. Faut que ça soit clairement indiqué dessus là, parce que je lisais un article écrit par un avocat de Fasken la semaine passée qui disait que probablement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont prendre l'orientation de marquer sur le dispositif, ce dispositif ne se répare pas. Alors là, ben, ça sera à vous de prendre la décision. Est-ce que j'achète un dispositif qui se répare ou un dispositif qui se répare pas? Fait qu'on va voir. Mais pour la location de ce que tu as chez vous, c'est un gros problème. On l'a avec Sirius. Hein, on en a déjà parlé sur le podcast. Sirius qui est installé dans toutes les voitures, dans plusieurs voitures. Puis il t'appelle encore à la maison pour te tanner. Puis tu te dis où que tu as eu mes coordonnées? T'sais, mais c'est quelque part, tu as signé une petite affaire quelque part. On a Sirius. Dans les équipements de sécurité, là, on a parlé des bancs chauffants. J'ai déjà parlé ici des vestes gonflables pour les motocyclistes. C'est un coussin gonflable qui est porté par le motocycliste et lorsqu'il est éjecté de la moto, la veste, elle gonfle. C'est tout avec des petites bonbonnes de CO2 pour permettre d'éviter les blessures. Et ça, tu payes au mois. Tu ne peux pas acheter la veste, c'est au mois. Alors là, si tu as changé de numéro de carte de crédit, tu as déménagé, là, peut-être que tu te promènes avec une veste depuis 3 mois, tout tu te sens en sécurité, puis la journée, tu es éjecté de la moto, ben là, on t'annonce que tu n'avais pas payé. Fait que. Puis ça crée des gros problèmes environnementaux. Hein. Tu sais, quand on dit qu'on installe des dispositifs sur des véhicules, alors qu'il va peut-être même en avoir juste 15% qui vont être utilisés. Tu te dis, hey, c'est un gros. Ça coûte cher.
Sur les objets qui ne se réparent pas, là, il y a un documentaire sur Netflix à propos de la pollution, puis je ne me souviens plus du titre. Là. Ouais. Mais tu sais, les petits écouteurs là, comme ça, là, comme j'ai ici. Ouais. Ben, cette boîte-là, là, quand tu l'analyses de proche, là, elle ne s'ouvre pas si tu ne la détruis pas.
Ouais, faut ça.
Fait que c'est géré pour que quand elle meurt, que tu n'achètes un autre, mais ça fait de la pollution. Fait que tu sais, on se tire dans le pied au niveau société en plus. Puis c'est volontairement fait que les nouveaux laptops, ces gogosses-là, même si tu gardes de l'ouvrir, souvent ils l'injectent de colle au complet pour plus que tu sois capable de le réparer. C'est pas juste on veut pas que tu le répares. C'est pas juste on t'aide pas à le réparer, c'est on veut pas que tu le répares, on le fait pas exprès. C'est loin, là.
Et je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que il y a une loi qui existe, par exemple, au niveau constructeur, d'être obligé, en fait, par exemple, s'il y a un système cloud embarqué sur l'appareil, comme ce que je le mentionnais, Spotify.
Non, pas encore.
Légalement obligé de donner le service pour, par exemple, 5 ans après la sortie. Parce que je sais, je n'ai pas les dates, malheureusement.
Ouais, il doit y avoir un truc.
La réponse est oui, Loïc. Okay. En vertu de la loi sur la protection du consommateur, il y a un article que tout le monde devrait connaître, qu'on devrait apprendre aux jeunes enfants à l'école, que là, même moi, je vais essayer de le citer, puis je le connaîtrai, je le citerai pas comme faux, mais c'est pas grave. Un bien qu'on achète doit servir pour le temps raisonnable qu'on s'attend que ça va toffer. Ça, grosso modo, là, ça, c'est l'article principal.
C'est pas juste au Québec.
C'est la garantie universelle au gouvernement du Québec. Ouais, oui, c'est juste au Québec. Mais quand tu achètes un lave-vaisselle, Bosch à 2800$. Le gros modèle stainless, style, la totale. C'est celui qui lave même là, les tiges à fondu. Ben, s'il brise au bout de 6 mois, puis que le vendeur te dit la garantie, t'es 6 mois, puis t'as pas pris la garantie prolongée. Au Québec, là, la garantie prolongée, là, on ne prend pas ça. Okay. Au Québec, il n'y a pas d'avantage. Les seules garanties prolongées qui sont cool au Québec, là, c'est comme j'ai pris sur mon appareil photo, là, c'est une garantie prolongée qu'elle offre en plus. Le nettoyage de l'appareil une fois par mois, la calibration, la ci, la ça. Puis quand tu prends juste ces options-là, déjà, ça dépasse le prix de la garantie prolongée. Fait que là, tu dis, bon, OK, m'acheter l'entretien et non pas la garantie. Mais des histoires de dire, hey, ton frigidaire, on va te rajouter un an de plus. Non, hey, tu viens de me vendre un frigidaire à 3 500$. M'attends qu'il va t'offrir plus qu'un an. S'il t'offre 3 ans, tu vas, je te dis, je vais revenir ici. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. Puis là, c'est sûr qu'on a des enjeux de rejoindre la compagnie. T'sais, moi, ça m'est arrivé avec un pas un dépanneur, mais une quincaillerie. J'avais acheté une laveuse sécheuse, quand même un kit à 6 000$ pour laveuse sécheuse, un gros kit. Là. Au bout d'un an et demi, la sécheuse arrête de marcher. Appelle là-bas. Moi, on ne peut rien faire pour vous, monsieur. Pas de garantie. Là, j'ai envoyé une mise en demeure. Hey, le lendemain, il m'écrivait. Hey, depuis ce temps-là, je suis le meilleur ami. J'ai le numéro personnel de la gérante du magasin à cette heure. Puis elle ne comprend pas pourquoi on ne m'a pas répondu la première fois. C'est parce que ils disent aux gens de pas répondre. C'est bon. Fait que oui. Mais c'est sûr que s'il faut rejoindre une compagnie en Californie pour lui dire qu'en vertu de la loi sur la protection du consommateur, il y a un problème avec mon service de musique, ça doit être un peu plus compliqué. Malgré que s'ils sont poursuivis, étant donné qu'ils ne se déplaceront pas, j'ai l'impression qu'ils sont condamnés d'office. Là. Mais comment ça fonctionne pour récupérer les montants?
Ouais, ça,
je pense qu'ils avaient donné une deadline de 1 an, je pense, avec les gens qui l'avaient acheté, d'envoyer le reçu à telle adresse pour recevoir le montant de l'argent.
Ça, c'est si tu vois la notification.
Exact.
De tout
parce qu'il est bloqué. Enfin, c'était inutilisable. Là. Tu pouvais même plus l'allumer, plus rien faire avec. Là. C'était.
Mais c'est arrivé avec des téléphones Skype. Hein? Il y avait des téléphones Skype qui faisaient du Skype. Moi, j'en avais acheté un pour ma grand-mère. C'était un écran, ça se posait sur le bureau. Puis pour les personnes âgées, c'était vraiment ça à coche. Mais à un moment donné, ils ont changé de version de Skype. Puis ils ont annoncé que dans 30 jours, toutes vos vidéos fondes vont cesser de fonctionner. Fait que, puis là, ben, effectivement, tu as un dispositif que là, est-ce qu'on pourrait faire de quoi avec? Probablement qu'on pourrait faire de la rétro-ingénierie. Il y a un écran, il y a du Wi-Fi. C'est probablement qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Mais on s'entend que c'est pas aussi simple que de connecter un passe-série. Là. Des fois, les passe-séries sont loin. Là.
100%.
Hey, mais merci pour ça. Bon sujet. Puis allez voir dans les show notes la vidéo complète de Loïc qui va être là. Vous parlez lui sur le Discord.
Hey, mais ça serait une belle affaire pour la Hackfest.
Ben oui, mais moi, je veux le combat de robots.
Ah ouais, c'est ça.
Non, non, pas de robot, un combat d'IoT, n'importe quoi, Chris. Une tondeuse intrigue. Mais t'as pas le droit de rajouter des armes. Ça doit être natif. La seule affaire que t'as le droit de changer, c'est le code dans le device. T'sais, t'as pas le droit de customiser
la face aller plus vite.
Ouais, c'est ça, là. Tu peux la faire aller plus vite. Mais tu peux pas changer hardware, faut que ça soit la même affaire. Mais au niveau software, là, t'as le droit de faire ce que tu veux. Et ça serait écœurant, Chris.
Je suis all in si ça vous tente, anyone. Je n'y vais pas. Finissons ça avec 2-3 petites nouvelles. Ben, celle-là, on n'était pas sûr, puis là, c'est pas mal certain. La Nova Scotia qui s'est faite pirater et perte d'électricité pour 300 000 personnes. C'est vrai, ça, mon Steve?
Ben, c'est au-delà des pertes d'électricité, là. C'est la perte d'informations personnelles. Puis, c'est ça qui est ironique. Je veux dire, dès le jour 1, le jour 0, même quand c'est arrivé, là, on s'en doutait tous. Puis là, c'est une confirmation parce qu'ils ont pu rejoindre tout le monde qui ont été victimes. Tu sais, c'est la stratégie qui est utilisée lorsqu'il arrive une fuite d'informations. Puis un peu comme un accident, ils veulent pas dévoiler qui est impliqué dans l'accident tant qu'ils n'ont pas rejoint ceux et celles là qui sont impactés, qui sont victimes. Fait que c'est dommage, mais c'est la réalité avec laquelle d'autres organisations. Puis là, tu sais, on l'avait mentionné, me semble, dans le dernier podcast, c'est le deuxième gros événement qui est arrivé en Nouvelle-Écosse. Je veux dire. Il y a eu avant ça le ministère de la Santé, là c'est Nova Scotia Power. À Terre-Neuve, ça a été aussi un centre des données au complet là, qui a passé, qui a été aspiré. Je veux dire, c'est là qu'il y a, avec des événements malheureux de cette nature-là, bien là, les instances politiques commencent à comprendre qu'eux autres aussi, il va peut-être falloir qu'ils concentrent leurs énergies et qu'ils se fassent des plans de match un peu plus sérieux. J'ai été répété témoin comment est-ce que, parce que le Québec il l'a fait, son ministère de la cybersécurité, mais les autres, ils ont gardé ça d'un coin de l'œil. Mais là, ils commencent eux-mêmes à faire les préparatifs officiels pour que ça puisse prendre forme. Déjà là, l'identité numérique, on parlait à un moment donné, l'Alberta puis la Colombie-Britannique ont pris les devants, alors que l'initiative du Québec était en avance, mais qu'il y a eu un petit peu d'immobilisme, puis c'est rendu en arrière-plan, dans le rétroviseur, comme on dit. Mais ça fait en sorte que... Pourquoi j'apporte l'identité numérique à travers cette réponse-là? Moi, j'y crois encore que ça va devenir un nécessaire pour aider les gens qui se sont fait usurper leur identité afin de prévenir la fraude de demain. C'est juste que les mécanismes sont toujours absents, sont manquants et non, il y a surtout un manque de...
Il existe le mécanisme, c'est la loi 25. Là.
Alors, on parle. Ça peut pas tenir la route là, longtemps. Fait que c'est ça qui est demandé. Il faudra qu'il y ait du leadership qui se mette en place là, pour que ça fasse quelque chose de sérieux. Là.
Non, tout à fait. Puis il faut que les choses bougent parce que ça va pas vite. Là. C'est ça l'affaire.
C'est dans l'immobilisme.
Puis faire un lien avec tout ce que tu as dit avec le niveau canadien et toutes les provinces. Là, justement, là, on a été accepté à donner le talk. Du Hackfest, là, le scan du gouvernement à Toronto, à secteur. J'espère que ça va faire bouger les choses pour les autres provinces. Ça.
Je ne sais vraiment pas, mais au moins, on va éclairer, on va mettre une lumière sur ce coin obscur et sombre de la technologie qui est peut-être mal gérée.
Ah, c'est partout. Là. Je pense pas qu'on ait de surprise. Bon, on avait déjà scanné un peu fédéral, mais pas en détail. Mais tu sais, il n'y aura pas de surprise Québec versus le reste. Là. Pas tant.
Là. Puis là, tu me fais penser, papa, en disant ça, le gouvernement fédéral a mis de l'avant cette semaine, semaine qu'on est dans la semaine du 7 juillet, même ça s'est sorti vendredi dernier, sa stratégie sur la cryptographie post-quantique, pour les prochains 10 ans, mettons. Et ça fait en sorte que je trouve que le plan, il était très bien présenté, faisant état, premièrement, de faire l'inventaire de qu'est-ce qui est connecté, de où ce qui est quoi, comme que ça devrait être fait. Puis après ça, bien, évidemment, c'est une belle élaboration, les étapes subséquentes. Mais ça donne le ton, justement. Attendez, messieurs, dames, là, le post-quantique, là, c'est pas juste un élément de science-fiction. C'est ça, la réalité. Le gouvernement prend ses responsabilités. Il le met de l'avant. Alors, messieurs, dames, des entreprises, petites, moyennes ou grandes, bien, voici le glas à sonner. Je pense à votre tour.
Oui. Parce que tous les autres pays, la Chine et autres, enregistrent vos données chiffrées jusqu'à temps qu'il y ait des chiffres. Fait que pensez pas que c'est parce qu'on chiffre aujourd'hui que dans 5 ans, ça va être le vrai encore.
Pour qu'est-ce qui a été ramassé, ça va être dommage. Ils vont pouvoir l'exploiter tantôt. Oui. Mais pour protéger demain, exactement.
Puis c'est ça que je voulais rajouter à ce que Steve disait. Avec cette histoire-là, on parle pas juste de faire un... Déjà, les compagnies et les organismes ont rarement des inventaires de leurs actifs. Mais quand ils en ont un, il faut s'assurer ici, là, on ne parle pas juste d'un inventaire en date d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, s'il y a eu des leaks d'informations dans les dernières années, il y a 10 ans, 15 ans, qui étaient chiffrés, il faut considérer que ces leaks-là, maintenant, dans un avenir très proche, ils vont être en clair. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il y a des données là-dedans qui créent des problèmes? La même chose que vous avez vu dernièrement, là, on en a parlé, le readtheirlips.com, le site web qui t'envoie une vidéo où est-ce que tu veux juste les lèvres bouger puis ça te dit le texte. Bon, ben là, il y a peut-être des équipes de sport en Europe là, tu sais, qui ont dit des affaires genre à un de leurs joueurs de comment ils disent ça, c'est du soccer, du foot, du foot en Europe. Imaginez-vous qu'il a dit à un de ses joueurs, là, hey, tu feras semblant que t'es blessé puis tu tournes à terre, tu fais semblant que t'as mal. Mais jamais personne n'a entendu ce qui s'est dit parce qu'il n'y avait pas de méthode d'écoute. Mais là, on prend la même séquence, puis on est capable de dire ce que le gars a dit. Là, ça peut avoir des conséquences, mais dans le passé, là, fait que il y a cet inventaire-là aussi qu'il faut se poser la question. Ouais, bon là. Dans ce que j'ai déjà perdu, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui, d'un point de vue temporel, n'ont plus de valeur? Versus, est-ce qu'il y a des données qui, oh, et si ça ressort, ça va avoir une incidence et il va falloir préparer une gestion de crise.
Yes. Avant-dernière nouvelle, Hydro-Québec qui réinvestit près de 1,4 milliard dans ses compteurs intelligents. Hey, ça, Loïc, on a besoin de toi.
Ils doivent être rendus IA. Ils doivent avoir mis le mot IA dedans.
Ouais, leur système de mèche là, qui a déjà été...
Oh. Ouais, mais là, ils changent.
Ils changent encore.
Ils changent, ils vont scraper tout ce qu'on... Parce que ça a l'air, ça fait pas loin de 10-15 ans qu'on a déjà ces compteurs-là qui sont en mèche un peu
2010,
partout.
2010, je pense, 2012, oui.
Ils s'en vont avec des compteurs qui vont se brancher sur le réseau cellulaire commercial. Pas de farce.
Il est déjà compromis, ce réseau-là. Qu'est-ce qu'on fait?
attention, Pat. Parce que c'est un dossier, je travaille avec justement le journaliste. Il va y avoir un deuxième volet qui va sortir bientôt. L'autre aspect, il a déjà été déployé aux États-Unis, mais personne n'a questionné « Hey, chez les voisins du Sud, ça marche-tu bien ou pas, cette affaire-là? » Ceci dit, ils vont faire un méga achat, remplacer tous les compteurs pour être en mesure de les déployer avec le réseau cellulaire en 4G LTE. Quelle est la question du jour, messieurs, dames? Quelle est la durée de vie du 4G LTE? Dans combien de temps qu'il va être disbandé?
Oh boy, je ne sais pas, mais je sais qu'il travaille sur le 6
moi,
déjà.
Je vais lancer mes dés magiques, là, mais pas plus que 7-8 ans. Là.
Ben, maximum dans ces eaux-là. Puis qu'est-ce que j'avais envoyé justement aux journalistes? Attends un peu, je vais retrouver mon tableau. Là, tu viens de le faire flancher.
Là, ils viennent d'avoir une tech qu'ils ont utilisée pendant 10-15 ans, ils vont en prendre une pour la moitié.
Il n'a pas une clé. Puis là, la compagnie se dit, oui, il peut être upgradable là, pour aller vers la technologie du 5G. Les bandes de fréquence en 5G, du 4G, sont compatibles.
Oui, mais il n'y a pas d'antenne 5G nulle part.
Ben, c'est là l'autre astuce de problème. Excusez, je viens de... En campagne, c'est ça, je faisais la relation aux journalistes. En campagne, là, il y a bien des places que 5G, là, il n'existe pas, là, puis il n'existera pas. Puis là, ben, posant la question, Hydro-Québec, ils ont-tu une entente secrète qu'ils vont donner de l'argent en dessous de la table aux téléco, puis ils vont aller mettre à jour leurs antennes en campagne, puis ça marche? Ben, c'est un nerf.
C'est pas juste mettre à jour, faut qu'ils en mettent 10 fois plus parce que le range est plus petit.
Oui. Ben, c'est ça. Ben, la mettre en 10 fois plus, c'est pour gérer la densité. Oui. Ben, c'est une question de densité dans ce cas-ci, je crois. C'est vraiment une raison de portée. D'ailleurs, c'est pour ça que les fréquences des anciens postes de TV UHF ont été achetés puis ils sont utilisés dans la 5G pour être en mesure de faire du long reach pour des IoT, parce que IoT, quand même, ils négocient pas grand-chose en échange d'informations. Mais anyway, bottom line, c'est que la deuxième partie du reportage devrait demander, justement, et on va devoir avoir la réponse. Il faut que Hydro-Québec se commette à dire, ben là, tu vas dépenser combien déjà? 1,4 milliard. Je ne me souviens plus de chiffre.
Milliard.
Est-ce qu'il y a un extra pour convertir les radios de ces compteurs-là, mais que la 5G soit primaire et que la 4G LTE soit disponible?
C'est comme la SAC. Il y a un extra juste pour que ça marche, je pense.
Ben, c'est ça mon point.
C'est une DLC. Oui.
Belle feature. Ouais, dossier à suivre. On regarde ça, aller lire le dossier dans le Journal de Québec là, qui sera dans les show notes. Puis on finit avec AT&T qui ont. C'est comme une bonne nouvelle, ça, je pense. Hein, la bonne nouvelle du jour. Qui ont.
Oui, rolled
out un wireless lock. Ben ouais.
Ceux et celles qui se demandaient, c'est comment que des fois les malfaisants apprennent le code secret pour voler la carte SIM, ramener ça sur un autre téléphone, et que là, justement, le deuxième facteur d'authentification s'en va sur le téléphone, ben en quelque part, justement, il y a de la magouille souvent qui est faite de part des employés véreux de la compagnie de télécom, mais aussi, des fois, la façon de travailler qui n'est pas simple. Mais en barrant ça, puis que là, ça devient à ce moment-là une compagnie qui prend ses responsabilités et qui dit... On comprend que c'est pas parfait, mais voici, on fait un plan qu'on va barrer ça. On anticipe que ça peut prendre beaucoup plus de place en termes de manpower, excusez de dire ça de même, mais de ressources humaines pour gérer le tout. Mais je crois que ça va être une bonne une bonne mesure pour prévenir les fraudes qui arrivent avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rentrais le terme du deuxième facteur d'authentification. Fait que même si c'est pas parfait, on s'en sert encore. Beaucoup de sites web d'accès se servent du deuxième facteur d'authentification par messagerie SMS. Alors, si on peut réduire la compromission des moyens primaires de gérer ces codes-là, ça va être déjà une meilleure manière, une meilleure façon de prévenir l'usurpation d'identité, du moins d'avoir accès au compte avec le même usage d'un 2FA. Francis?
La musique à mes oreilles. Parce qu'au niveau physique, on est capable de débarrer. Ta carte SIM, tu peux mettre un mot de passe dessus. Fait que si quelqu'un vole ta carte SIM et la met dans son téléphone, elle ne marchera pas. Fait que ça, c'est parfait. Ça, c'est une bonne chose à faire. Mais on est dépendant du nouveau opérateur. Si quelqu'un appelle, moi, mettons, j'étais avec TELUS, quelqu'un appelle TELUS, bonjour, je m'appelle Francisco, c'est quoi le nom de jeune fille de votre mère? C'est Suzanne Labrie. Puis là, ah, ben parfait, on va transférer votre compte chez Bell. Puis là, il fait un SIM swap logiciel, dans le fond, là, il le fait au niveau du fournisseur. Ben, je suis baisé, je suis bonné, je perds mon numéro de téléphone, je perds l'accès à certains de mes comptes, et ça devient compliqué. Puis ça, souvent, les compagnies de télécom, ça se pourrait te demander un mot de passe. Ils ne te le demandent pas une fois sur deux. C'est un nouvel employé. C'est pas automatique. Sérieusement, c'est un bordel. Fait que d'avoir une compagnie comme AT&T qui prend position là-dedans, moi, demain matin, c'est sûr qu'il y a une compagnie au Canada qui offrirait une protection sur le SIM swap logiciel. C'est sûr que je m'en vais avec cette compagnie-là demain matin.
Puis, tu sais, t'as dit le mot fraude. Ben, c'est pas vraiment fraude, là, mais Steve t'a dit un insider. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir parler plus parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquent que tout le monde pense. La majorité des attaques de tout type, c'est des insiders. On le vit avec Desjardins, là, mais
comme
c'est tout
ça. Les fraudes bancaires qu'on disait au début,
pas. C'est tout ça. La RBC, c'est un insider parce qu'ils connaissent les détails de la personne, puis blablabla.
Oui, mais les gars, on parle de souveraineté numérique. Le fournisseur de téléphonie que j'avais avant, quand j'appelle le service à la clientèle, à un moment donné, j'appelle là, j'entends des vaches. Des vaches, là. Puis là, j'ai le gars, tabarnak, t'es où? Ah, on est en télétravail aujourd'hui. OK, t'es en télétravail. T'es sur l'île d'Orléans? L'île d'Orléans, aucune idée. Le gars est en Colombie.
Ben oui.
Il sous-traite. Ils sous-traitent le support technique.
Ils sont obligés, tu sais le nombre de personnes qu'ils doivent engager? Ils ne veulent pas payer
local. Non, mais en Colombie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en Colombie, pas un, des dizaines, des centaines de personnes qui ont accès à ma carte bancaire, toutes mes informations. Puis là, je vais être hyper raciste encore une fois. Moi, tout le monde sait que je suis raciste, moi. En Colombie, c'est un des pays où est-ce qu'il y a le plus haut taux de criminalité et de corruption au monde. C'est là que tu as envoyé toutes mes données de communication et mes données bancaires. Est-ce quelque chose que je n'ai pas compris, là?
Oui.
La business.
La façon que l'économie fonctionne, Francis.
On s'en fout de faire des trucs locaux, tant que ça ne coûte pas cher. C'est ça.
Et voilà.
Ah, tu sais, certaines grandes entreprises, la majorité de leur support est en Asie. That's it, là. Peu importe où dans ces pays-là. Là. Mais c'est 100% là-bas. Puis.
Ben ça devrait être non, ou ça devrait être très raison, clair. Là. Quand tu payes pour un service, ça devrait être clair en gros caractère, du caractère 72 sur des feuilles 11-17. Là. Ça devrait être clair. Est-ce que vous acceptez que vos données soient envoyées en Colombie pour le support technique? Non! Ah, OK.
Oui, puis qui va venir à ce moment-là challenger si c'est fait ou pas?
Oui, ça aussi. Hein? Ouais.
Ah, ben là, ça prend notre bon gouvernement pour s'en occuper. Là.
Très bon. Très bon.
Non, là, c'est un autre débat.
Mais ne serait-ce que j'en viens d'être informé. Quand tu apprends que tes données sont envoyées dans un autre pays, ben, tu sais, il y a peut-être des pays que je suis plus à l'aise, mais tu sais, comme je dis, en Colombie, puis que le choix est fait qu'on veut le plus bas soumissionnaire. Ça veut dire qu'on fait peut-être travailler des gens que pour eux autres, le prix de ton téléphone, là, c'est peut-être un an de paye, là. Fait qu'on met des gens dans des positions là, avec de l'information qui vaut de l'argent. Tu sais, je trouve que c'est pas correct, ça. C'est pas rendre service à ces gens-là. C'est de l'exploitation des gens. Puis en plus, on met à risque nos données. Le seul qui est gagnant là-dedans, c'est la compagnie qui fait de la business. Puis, moi, là, c'est
les
pas cher.
Groupes de, je veux pas dire de hacking, là, mais de criminels, ransomware et autres, de fraudes généralement, là. Les spiders, scatter, whatever, j'ai oublié le nom, là. qui est populaire ces temps-ci. Oui. L'heure approche, c'est du insider, puis ils vont donner 50, 200 000 à quelqu'un. Et quand t'es dans un pays de même, ton salaire, c'est ça, 500$ par année, puis tu te fais offrir 50 000. T'es donne les données, là. Voyons donc!
Tabaslac, t'es donne, tu dis!
Non, non, il n'y a pas de limite, là. Puis quand ils se font pogner, il se passe pas grand-chose, là. Le temps que ça arrive, là, ils changent de place. Ils partent en courant.
Puis quand ils se font pogner, ils prennent 20 000 sur le 50 000, puis ils le donnent aux policiers de la place qui gagnent 600$ par année.
Aussi. Ouais.
Tout le monde se débrouille là-dedans, là.
Oui, ben merci tout le monde, ça fait le tour. J'avais une dernière question, Loïc, ton petit code ESP et tout, t'as-tu mis ça public, GitHub?
Ouais, sur un GitHub, cool. C'est en description de vidéo, à chaque fois que je fais des petits projets, je mets tout, pour que tout le monde puisse s'amuser là, donc ouais, je me suis cassé la tête, mais au moins eux peuvent le faire.
Bon. Ben, tout le monde, allez vous acheter des Roomba à 20$,
Marketplace
qu'on parle de ce qui se passe.
Tout le monde au Hackfest avec leur Roomba sous l'épaule.
Ça coûtera pas cher le voyage après le.
Yes, le tapis va être usé.
Mais ouais. Ça serait vraiment solide de faire ça à la fin du Hackfest. Dans la hall de sponsor, je pense que ça serait super. All right. Merci tout le monde. Merci Loïc. Et on se reparle d'ici une semaine ou deux.
Bye. Salut.
Ça va être un plaisir. The French Connection. Des gens de sécurité, des experts en sécurité comme vous autres, là. Je lui disais, c'est facile. Il y a 3-4 lignes de code à changer, peut-être un peu plus que ça, mais en tout cas, on pourrait facilement, sur un véhicule comme le mien, ma BM ou ben la Volkswagen Aster, s'arranger pour quand tu rentres dans l'auto, il t'envoie un code sur ton auto, sur ton téléphone, tu t'es oublié à utiliser Authenticator ou n'importe quoi pour te loguer dans ton auto, puis démarrer le char. Ça, là, présentement, on est capable de le faire. La technologie, elle est là.
Ouais, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas capables de le faire aujourd'hui.
Ben, ils sont capables, mais la réalité, c'est que ça fait chier le peuple. Le consommateur veut pas faire ça.
Parce que la manière que ça marche, c'est le CAN bus. Puis le CAN bus, il est connecté à tout. Fait que si tu mets ton démarrage sur le TOTP, le code de ton cellulaire, ton CAN bus, il est là, puis ton cellulaire rentre là, ben, tu te connectes de l'autre bord. Puis tu peux passer à la règle. Tu te connectes dans le filage, puis tu le startes pareil, le char.
Ouais, mais il y a des données, c'est propriétaire le canvas, là. Fait que tu pourrais envoyer des données chiffrées sur le canvas, même si le canvas n'est pas chiffré.
Tu pourrais envoyer
des données chiffrées, là. Tu sais, je veux dire, mon point, technologiquement, c'est
design, les compagnies
font le design présentement, tout, c'est que ils veulent pas le faire parce que ça va faire chier
monsieur tout le monde.
Les consommateurs. Puis moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça en sécurité. Hey, si tu penses que j'achèterais ça, tabarnak, un char que je suis obligé de m'authentifier avec mon téléphone. Moi, quand je rentre dans mon char, je me pèse sur le piton puis ça part. Bon, ben là. La journée qu'il y aura une loi qui va dire que, garde, là,
Mais le plus drôle là-dedans, là, dans les années 90, il y avait une clé 2FE qui existait dans les chars. C'était un bloc infrarouge que tu touchais. Si tu l'avais pas, le char partait pas. Ah, mon père avait ça en 92 ou 94. Rien de spécial, là.
Non, il y en a eu des systèmes, là. Puis les systèmes avec les clés, ça, ils sont super bons, ils fonctionnent. Mais regarde, je vais donner l'exemple, là, les vols d'auto avec les clés intelligentes, là. Pas bien ben compliqué, là. Le keyless entry, là, interdit-le au Canada. Et si boire, tu viens d'améliorer le sort des vols de véhicules en tabarnak. Oui. S'il n'y a plus de keyless entry, là, tu peux plus reproduire du code, puis ça marche plus de même, là. Faut que tu payes sur le piton pour débarrer ton char. Mais le fait que ta manette a émet tout le temps, où il pourrait juste prendre... Hey, ça serait... J'avais parlé à du monde à un moment donné. Juste mettre un chip là, de positionnement style gyroscope dans ça coûte 12 cents un chip de
manette. Oui, mais on avait parlé des solutions sur les podcasts.
La manette, là, t'as mis la gueule par en bas, elle arrête d'émettre. Tu comprends-tu? Elle aimait plus. C'est fini. Faut que tu la mettes du bon bord pour qu'elle émette.
C'est pas juste ça. Un on-off, c'est une scène.
Un on-off, une switch mécanique, esti.
Connection.